France Culture.
À voix nue, cette semaine, Marceau Vassis entretient avec
Michel Troisgros, cuisinier, restaurateur aussi.
Quatrième épisode, se réinventer. Michel Troisgros, nous sommes toujours à Ouche, près de Roanne, où se trouve à présent depuis 2017 le restaurant Troisgros. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé du moment où vous avez repris les rênes du restaurant familial en 1996, mais aussi de votre cuisine et de votre appétence pour l'acidité. Dans ce quatrième épisode, j'aimerais à présent que l'on revienne sur la manière dont vous avez, durant ces 27 années à la tête de la maison Troisgros, cherché à innover, à vous réinventer dans votre cuisine et dans différents projets. Car il n'y a pas eu uniquement le restaurant Troisgros et ses 3 étoiles Michelin dans votre carrière. Vous avez ainsi ouvert, dès 1995, avec votre épouse Marie-Pierre, une brasserie-épicerie, le Central, qui existe toujours en face de la gare de Roanne, à côté de l'ancienne maison mère. Pourquoi est-ce que vous avez ouvert ce restaurant ?
Le Central, il existe toujours. Il existe bien même, parce qu'il s'est dynamisé, toujours dynamisé. Pourquoi on l'a ouvert ? Pour vivre notre aventure. Essayer d'entreprendre. C'était pas d'ailleurs le meilleur moment pour le faire, ou peut-être que c'est arrivé comme une opportunité, en tout cas, de le faire. Le Central appartenait à des voisins, les Pavlov. Mon grand-père en avait rêvé, mon père en avait rêvé, et à ce moment-là, on nous le propose. Donc, on a imaginé y faire un restaurant, une brasserie, qu'on a appelé d'ailleurs café-épicerie au départ, parce qu'on s'est inspiré, Marie-Pierre et moi, des épiceries italiennes, des trattoria, où on reçoit à manger, mais on peut aussi emporter des ingrédients qui sont les ingrédients des plats qu'on propose. Voilà, on était parti sur cette idée-là. Donc, on a récolté, on va dire, en Italie, en Espagne, en France, à droite, à gauche, c'est des petits producteurs, voilà, des conserves, ou des coups de cœur, en tout cas, qui animaient les grands vaisseliers. Et au milieu, donc, ces tables avec une cuisine qui est une cuisine vive, simple. C'était un exercice pour nous deux, d'ailleurs, de sortir du cadre du grand restaurant dans lequel on avait été, on pourrait dire, formaté, quoi. On avait été conditionné. Donc là, un vrai exercice de faire une cuisine différente, d'inspiration aussi, elle aussi, familiale, ménagère. J'ai entre guillemets aussi italienne, un peu de ma mère, de ma grand-mère. En tout cas, de sortir de notre zone de confort. Et tout de suite, le succès a été au rendez-vous. Parce qu'en fait, les Rouennais n'attendaient que ça. Les gens de la région n'attendaient que un petit Troisgros, quoi, next door, qui pouvait leur offrir le coup de patte, mais pas au prix. L'air du temps nous donnait à entreprendre cela, parce qu'on voyait bien le déclin du textile rouennais, on voyait bien le temps à consacrer notamment au déjeuner d'affaires qui réduisait. Donc c'était nécessaire à ce moment-là de proposer autre chose.
Est-ce que aussi ce restaurant Le Central, c'était une manière de faire une cuisine plus populaire, plus accessible, plus démocratique, on va dire ?
Oui, bien sûr. Se mettre à la portée du plus grand nombre et puis permettre aussi peut-être de faire un pas vers Troisgros en passant par Le Central. Voilà, c'était peut-être moins intimidant pour la deuxième étape de rentrer dans la grande maison.
Vous avez aussi ouvert des restaurants à l'étranger. Le premier, ça a été à Moscou de 2001 à 2004, le Koumir, à côté de la Place Rouge. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a fait accepter ce projet dans ce pays ?
Une relation d'amitié avec un client russe qui fréquentait notre maison et que j'appréciais. Voilà, il était tombé amoureux de ma cuisine et au point où, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose à Moscou en cuisine française moderne. La cuisine française, à ce moment-là, ressemblait plutôt à la cassolette d'escargot et au foie gras en terrine importé des Landes. Donc, j'arrive là-bas, il me propose, je dis, tiens, quelle belle aventure, la cuisine russe, eh bien, elle intriguait parce que Carême avait officié à la cour du Tsar, parce que dans l'Escoffier, on a des traces de cette histoire-là, de plats qui ont été créés là-bas. Et en même temps, le monde de la fermentation, le monde d'une cuisine de racines, d'une cuisine, en tout cas, qui m'était inconnue, m'intrigue. Voilà, je le prends comme une opportunité pour m'ouvrir l'esprit. Et donc, voilà, je me lance dans ce projet du Koumir qui a duré 3 ans. Parce que très vite, je me suis rendu compte que c'était très compliqué. Les ressources humaines n'étaient pas formées là-bas. Les écoles hôtelières étaient encore presque, je veux dire, pas présentes. Donc, il a fallu tout faire. Puis les clients, surtout. La clientèle n'était pas prête à recevoir une cuisine française comme moi, déjà, je l'avais initiée. Et puis après, des difficultés pour l'achalandage des produits. Voilà, j'ai eu des difficultés. Mais je ne regrette rien parce que ça m'a ouvert l'esprit sur cette cuisine-là, slave, ces cuisines qui sont très intéressantes. Faire des belles choses avec pas grand-chose.
Vous avez découvert là-bas des goûts nouveaux qui ont inspiré aussi votre cuisine ?
Ben, notamment les grelets. La fermentation lactique ou la fermentation des choux, des betteraves, des racines, ce qu'on préserve en effet pour les longs mois d'hiver. La cuisine russe, alors, je la connais pas si bien que ça, hein, parce que je pratiquais une cuisine française avec des ressources en partie russes, celles qu'on m'offrait. Mais en tout cas, ça m'a donné l'occasion de faire des rencontres avec notamment des cuisinières russes qui m'ont enrichi de leur savoir. Et les marchés, j'ai vu au combien il y avait une science, mais une science de la transmission hein, des savoirs, de façon d'ailleurs très empirique comme ça, mais les marchés de Moscou que j'ai fréquentés étaient tout autant sur les étals des propositions de bocaux et de conserves que de produits frais. Ils ont une vraie science de la conserve.
L'aventure s'arrête donc à Moscou en 2004. Vous ouvrez rapidement un autre projet à l'étranger, dans un pays qui vous tient à cœur et dont on a déjà parlé, c'est le Japon, de 2006 à 2019, Cuisine Michel Troisgros,
oui.
Ce restaurant à Tokyo qui aura 2 étoiles Michelin. Quelle cuisine est-ce que vous servez dans ce restaurant ? C'est une cuisine fusion, oui. Une cuisine française ?
Enfin, ma cuisine, elle a toujours été de diversité. Hein. Elle a toujours, on pourrait dire, intégré des influences que j'ai... on va dire papillonner à travers mes voyages, etc. Donc, j'ai pas créé une cuisine pour le Japon. Elle est devenue après un peu plus métissée, on va dire, et un peu plus sous influence du pays dans lequel je l'exerçais. Mais au début, j'ai pas suffisamment la connaissance des ingrédients locaux pour créer une proposition qui soit franco-japonaise. Puis c'est pas là où on m'attendait au début. On m'attendait vraiment sur une écriture de cuisine de Michel Troisgros. D'ailleurs, le restaurant s'appelle Cuisine Michel Troisgros. C'était un peu familier pour moi, le Japon. C'était pas, j'allais déjà au Japon depuis une quinzaine d'années au moment où j'ouvre ce restaurant. Je forme autour de moi une petite équipe avec Lionel Becca qui est, à l'époque, avait quelques années à mes côtés à Rouen, qui est un homme assez exceptionnel, qui est toujours au Japon aujourd'hui. Il a un restaurant qui s'appelle Esquisse à Ginza. Il m'a quitté là, maintenant il est indépendant, mais il est resté 5 ans avec moi au début. Et très vite, j'ai observé qu'il avait réellement un talent qui m'éclairait d'une part, qui m'éclairait sur... les ingrédients japonais, puisque lui, il vivait là-bas toute l'année, alors que moi, j'y allais 2, 3, 4 fois par an, pas plus, sur des courts séjours. Donc, c'est lui qui m'a fait l'inventaire ou qui a fait un travail, en tout cas, magnifique sur ce qui pouvait être précieux dans la nourriture japonaise, dans les matières premières japonaises, et qui pouvait nourrir l'évolution de ma propre cuisine là-bas. Et puis après, voilà, entre, en effet, le temps aidant, le temps passant, plus la cuisine et les ingrédients japonais sont venus s'infiltrer, sans perdre évidemment l'esprit d'une cuisine française, mais en faisant de plus en plus avec des ressources locales. Il faut dire qu'au Japon, les produits locaux sont extraordinaires. Les pêches locales, les crustacés, les coquillages, d'une fraîcheur inouïe. Vous savez qu'à Tokyo, il y a le plus beau marché aux poissons, qu'on puisse trouver, hein, et les poissons sont vivants. C'est extraordinaire.
Vous nous parliez hier en off, ouais, de cette culture justement du Japon pour le poisson.
Oui.
Une culture que vous disiez on n'avait pas ou peu en France.
Par exemple, il y a l'ikejime. L'ikejime qui au Japon est courant, qui est cette façon de donner la mort aux poissons, et que j'avais vu au tout début de mes voyages au Japon sur le marché de Tsukiji. Voilà, aujourd'hui, il est répandu en France, l'ikejime. En fait, cette manière-là permet à la chair du poisson de se bonifier, de maturer un peu comme la viande, apporte l'umami, c'est-à-dire la profondeur des saveurs à la chair du poisson. Et ça, on l'a ramené, maintenant c'est courant en France, mais on l'a ramené de là-bas.
En 2004, vous avez aussi ouvert La Table à Paris, le restaurant de l'hôtel Lancaster dans le 8e arrondissement, que vous allez diriger jusqu'en 2014 suite à un changement de propriétaire. Puis en 2008, vous ouvrez La Colline du Colombier à Ygerande, en Saône-et-Loire, que votre fils Léo d'ailleurs vient de reprendre avec sa compagne. Vous avez donc eu au début des années 2000 une phase d'expansion, parce que vous avez jusqu'à 5 établissements en même temps. Aujourd'hui, la Maison Trois Gros ne possède plus que 2 établissements, la Brasserie Centrale et le Bois sans feuilles, le nouveau nom du restaurant gastronomique Trois Gros. Pourquoi ce recentrage ?
Peut-être parce que je l'ai expérimenté, parce que j'avais envie de ces aventures pour me construire. Parce que j'avais, envie, encore une fois, j'étais entre deux. J'avais envie de m'épanouir en vivant ces expériences. À Paris, à Moscou, au Japon, l'envie de voyager encore, voilà, où j'ai pas eu une envie d'expansion, c'était j'ai vécu chacune de ces aventures comme des opportunités pour grandir. Au moment où avec Marie-Pierre on a nourri le projet de déménager à Ouche, j'avais besoin probablement, c'est même sûr, j'avais besoin de temps. Ben pour m'y consacrer, quoi, pour être pleinement à ce développement. Et peut-être parce que j'étais arrivé aussi au bout de cette expérience. Peut-être que j'ai vu que j'étais pas fait réellement, voilà, ou c'était pas mon avenir, en tout cas. J'étais au point où soit j'allais plus loin, c'est-à-dire pourquoi pas un autre, un quatrième et un cinquième, et pourquoi pas New York, et pourquoi pas San Francisco, mais... Ou alors, au contraire, je me consacrais à cette aventure qui a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion. Et voilà, j'ai décidé, mais alors, ça s'est pas fait de façon très, très brutale, hein. J'ai pris le temps pour ça, mais je me suis séparé notamment de La Table du Lancaster à Paris. En plus, il y avait des différences sur les perspectives avec les propriétaires. Donc je m'en suis séparé élégamment, mais ça s'est fait.
Quand on dirige une maison comme la vôtre, Michel Troisgros, oui, on est obligé d'avoir 2 casquettes. Celle de chef cuisinier, mais aussi celle de chef d'entreprise.
Celle de cuisinier me va mieux que chef d'entreprise. Je m'y suis mis. Je suis pas mal à l'aise parce que je suis bien entouré et que Marie-Pierre sait le faire aussi. Voilà. À deux, on est vraiment plus apte, en tout cas, là. Et aussi parce que notre fougue, notre envie a pris le pas. C'était pas très raisonnable de le faire. On n'avait pas que les vents porteurs avec nous. Nos experts comptables, nos conseils, et même notre architecte Patrick Bouchain n'était pas favorable à ce déménagement. Parce qu'il jugeait les uns et les autres soit que c'était une folie entrepreneuriale, financière, soit pour Patrick Bouchain et d'autres amis, que ce n'était pas possible de rompre avec l'histoire de la place de la gare. Que ça ne se faisait pas, qu'une institution, même avec ses faiblesses, parce qu'elle en avait beaucoup, la maison de la gare, mais elle avait aussi son histoire pour elle, et qu'on ne pouvait pas rompre avec ça. Donc, pour vous dire que sur le plan entrepreneurial, on n'était pas, tous les feux n'étaient pas ouverts. Mais on avait, nous, au fond de nous, Marie-Pierre et moi, la conviction que ça allait, que ce mouvement allait nous donner des ailes à nos équipes et en particulier à nos enfants, qui étaient déjà à nos côtés au moment où on entreprend ce projet à Ouche.
On reparlera plus longuement dans l'épisode de demain de ce déménagement à Ouche et de cette transmission que vous avez faite avec ce nouveau lieu pour vos enfants aussi. Et j'aimerais que l'on parle à présent aussi, Michel Troisgros, dont une passion que vous avez pour l'art contemporain, qui est l'une de vos sources d'inspiration avec le voyage. Je crois que c'est un galeriste lyonnais qui vous a fait acheter votre première œuvre dans les années 80. C'est une peinture à la cire de Mija Tusek, peintre slovène. Est-ce que vous pourriez la décrire pour nos auditeurs, cette toile ?
Facile, enfin, vous décrire le moment où ça arrive, parce que j'étais... à ce moment-là, Marie-Pierre et moi, on vivait sous la personnalité de mon père, qui faisait les choix des peintures qui étaient sur les murs du restaurant. Et voilà, nous, nos connaissances en art étaient très légères, quoi. Mais un ami me parle de ce galeriste, Philippe Nelson, qui ouvre à Lyon et qui a du talent, qui monte des artistes français, allemands. Puis un jour, j'ai un moment, j'y vais. Marie-Pierre n'a pas pu m'accompagner ce jour-là, donc Philippe m'accueille. Il me prend par la main. Voilà, il m'a, avec beaucoup de patience, une légèreté dans le propos, enfin une légèreté. En tout cas, il s'est mis à mon niveau, c'est-à-dire niveau zéro, et il a pris le temps de me montrer. Et là, il y a un artiste, en effet, que je découvre, qui il me donne à voir une peinture à la cire de Mitya Tuček, donc un artiste que je ne connaissais pas du tout. Et cette peinture à la cire qui représente un petit teint et qui représente un paysage, m'attire, en tout cas me touche. Je ne peux pas l'expliquer pourquoi. Et je reviens dessus, il me montre d'autres choses, mais je reviens là-dessus. Et puis, voilà, il y a une petite histoire entre nous, parce qu'il me dit, écoute, Michel, est-ce qu'il voit bien que j'hésite, je demande le prix, c'était 7000 francs, c'est beaucoup pour moi, à la fois je suis attiré, mais à la fois je n'ose pas, etc. Et il l'emballe et je repars avec la pièce sous le bras et j'arrive à la maison, j'ai Marie-Pierre, écoute, voilà, j'ai ramené quelque chose. Tu sais, ce galeriste lyonnais dont on nous a parlé, j'ai été le voir. Je ramène une peinture, ah bon, qu'est-ce que t'as ramené, etc. Je déplie, et avant de la déplier, de la déballer, je lui dis, écoute, je te préviens, c'est contemporain. Et en effet, Marie-Pierre, qui voit ce paysage, qui est très intriguant, à la cire, le travail, la matière est très très belle, et d'une couleur dans les gris, vert, bleu, assez intrigante. Elle me dit, mais tu trouves ça contemporain, moi je trouve ça classique. Et cette pièce-là, Philippe, qui m'avait fait confiance alors qu'on ne se connaissait pas, je l'ai gardé. On l'a gardé et on ne se lasse pas de la regarder. Et ça a été le départ, d'abord d'une relation très forte d'amitié avec Philippe Nelson, qui après vraiment nous a beaucoup accompagnés dans notre passion, ce qui est devenu une passion en tout cas pour la création contemporaine. Mais pas seulement d'ailleurs, pas seulement contemporaine, en tout cas pour la compréhension du monde de l'art, qui est très complexe et magnifique. Et voilà, il nous a aidés, plus la famille Roblin qui, elle aussi, nous a aidés à voyager, à fréquenter, à rencontrer des artistes. Et voilà, c'est ainsi que c'est arrivé. Et c'est ainsi qu'arrive en moi, sans même en avoir conscience, un exemple, une ouverture d'esprit qui permet à parallèlement à la cuisine de grandir, d'évoluer, de s'inspirer. Mais encore une fois, c'est pas faire comme j'ai vu, mais c'est plutôt par cet esprit-là chez certains artistes, cette remise en cause permanente, ce rejet du confort de reproduire parce que ça plaît. Chez certains artistes, cette interrogation permanente que peuvent avoir les artistes, eh bien, je l'ai pris comme exemple. D'une part pour l'attitude, mais aussi parce que est arrivée en moi probablement une notion de sens et peut-être d'esthétique, de beauté.
Il y a certains de vos plats qui sont directement inspirés ou qui rendent hommage à des œuvres d'art. C'est assez original et rare pour le souligner. La plus célèbre est sans doute Blanc de lait et noir de truffe, en hommage à Lucio Fontana qui lacérait ses toiles monochromes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette recette, de cette genèse, de ce plat qui est devenu assez emblématique de votre cuisine ?
Je n'ai pas voulu rendre hommage du tout à Lucio Fontana. Je connaissais à peine son travail. Un jour, c'est à la Biennale des Antiquaires, pour vous dire, au Grand Palais à Paris, où pour la première fois, j'ai un Fontana à voir sous les yeux. Il est blanc avec donc une lacération qui laisse apparaître du noir en dessous. Donc, ça m'intrigue. Ça m'intrigue au point où je m'informe du travail de Lucio Fontana. Mais on en reste là. Des mois plus tard, je mène un travail sur la peau de lait. Je voulais retrouver cette peau de lait que j'adorais quand j'étais gamin. J'étais le seul des gamins à Trois Gros au petit déjeuner le matin, à l'époque le lait cru qui donnait cette peau dessus. J'étais le seul à passer cette peau de lait et à en régaler les autres, frères, sœurs, cousins, cousines. C'était pas possible, la peau de lait, c'est gras, c'est écœurant. Moi j'adorais, elle était pour moi. Donc je voulais retrouver cette sensation de peau de lait. Donc je mène un travail avec mon copain Hervé Mons, hein, qui est fromager ici, pour faire un cahier de lait. Donc faut techniquement, il faut comprendre comment faire un cahier de lait, c'est-à-dire un fromage blanc. Sauf que moi, je voulais en faire une peau, une feuille, et une feuille très délicate. Donc je fais des essais. Évidemment, je mets au point un matériel aussi avec des cadres, des tamis pour égoutter le lait pendant 24 heures, pendant 12 heures, pendant 6 heures, l'épaisseur, l'aigre-lait, différentes choses. Et puis, je ne savais pas encore qu'en faire. Au départ, je me suis dit lait, dessert, douceur, dessert. Donc le travail porte sur l'esthétique d'un dessert, etc. Et puis, les desserts, les fruits rouges disparaissent, arrive la saison de la truffe noire, les premières truffes noires de décembre sont là. Et là, je me dis, tiens, je vais faire un pesto de truffes fraîches, donc pilé au mortier, pointe de citron, un peu de sel, tournemoulin à poivre, une goutte d'huile d'olive, et je fais une pâte noire, comme ça, que je dépose sur l'assiette, je la tiédis, je la dépose sur l'assiette, Et là, j'essaye d'amener cette feuille de lait dessus. En amenant la feuille de lait, involontairement, elle pète sous mes yeux, elle s'ouvre. Au moment où elle s'ouvre, je réalise, et j'avais mon chef qui était à côté de moi, je dis, tiens, on dirait du Fontana. Mais je le dis ça assez bêtement. Bon, je mange, c'est intéressant. Je dis, tiens, il y a de la profondeur, il y a quelque chose qui se passe, pas seulement dans le contraste visuel, mais aussi dans deux univers qui sont celles du lait, la douceur, le réconfort, la truffe, la puissance terrienne, l'amertume, la brutalité quelque part. Il y a l'opposition de deux univers qui me plaît. Je recommence, la feuille de lait ne s'ouvre pas. Et c'est donc à ce moment-là que j'ai dit, si elle s'ouvre pas, je me suis dit, je vais l'ouvrir. Et donc je prends une lame de couteau et je lacère, mais je ne parle pas de lacération, à ce moment-là je coupe. Et en effet, en coupant, le noir apparaît. Et après, je réalise que je suis en train de faire la même chose que Lucio Fontana quand il lacérait ses toiles. J'en fais une préparation conceptuelle. Des clients amis qui passent le lendemain, je leur dis, tiens, je vais leur faire ça pour avoir leur sentiment. J'amène donc ma peau de lait et de truffe sur la table déjà lacérée. Ils mangent, je récolte leurs commentaires. Pas vraiment emballé, c'est pas enthousiaste comme je l'attendais. Il manquait quelque chose. Et en fait, ce qui manquait et que je réalise, c'est qu'il fallait lacérer sous leurs yeux. C'est-à-dire amener la peau de lait blanche, ne rien montrer, et passer à côté avec un couteau et lacérer sous les yeux. C'est-à-dire qu'ils puissent participer à l'événement qui se passe. Et c'est comme ça qu'est né le plat. Et c'est comme ça en même temps que je prends conscience que l'art a un effet sur moi. Il y a eu d'autres rencontres comme ça, fortuites, inattendues, avec l'art. Mais je le réalise que lorsque c'est fait, je ne conduis pas vers quelque chose qui ressemble à... c'est comme si je le subissais.
Justement, il y a une question qu'on pose souvent aux chefs étoilés, qu'on vous a souvent posée, Michel Troisgros, c'est celle de savoir si la gastronomie est un art. On va tenter de la poser un peu différemment, cette question, en demandant plutôt, quand est-ce que dans votre métier, vous avez l'impression de toucher à une forme d'art? Est-ce que c'est durant la création des plats? Est-ce que c'est durant le dressage, lorsque le client goûte? Ou c'est plutôt un état d'esprit, quelque chose un rapport à la cuisine?
Je pense que c'est un peu tout ça, quoi. Je sais pas. Je pense que je m'appuie tellement sur des savoirs, du travail... une habileté de la main. Je pense que parfois, en effet, ça dépend des cuisiniers. Moi, en tout cas, je crois que parfois, il y a tellement de moi, il y a tellement de ce que je suis, de mon univers, dans ce que j'offre, que je pense qu'on n'est pas loin, en effet, d'une création artistique, voire on l'est, même on l'est carrément. pour avoir échangé déjà avec des artistes sur leur la manière dont ils s'investissent dans le travail, avec tellement d'hésitation, d'aller, de retour, d'incertitude, de temps pour eux, on ne trouve pas le chemin à suivre. En fait, ce qui me rapproche de leur position, je pense, c'est le fait de ne rien voir et de laisser venir à soi tout en allant à la quête de quelque chose qui n'est pas clair. Sinon, l'ingrédient principal, le reste, est totalement flou, incertain. Et en fait, la chose apparaît en empruntant le chemin. C'est un peu comme l'écriture et comme toute forme de création artistique, je crois. C'est-à-dire le point où on veut aller est inconnu et il prend forme. Et en cela, la cuisine est un art.
Justement, là, en énumérant la création de ce plat blanc de lait, noir de truffe, vous avez aussi fait des œuvres en hommage ou qui avaient une similarité avec les toiles monochromes de Marc Rothko, ouais. Le plat coquille Saint-Jacques en hommage à Pierre Boulez, les escargots Matisse. En énumérant toutes ces créations, on peut penser que votre cuisine est uniquement une cuisine justement très référencée, très intellectuelle. Mais en réalité, votre cuisine, elle est assez lisible. Peu d'ingrédients en assiette, une apparence simplicité. Et en fait, toute la complicité se révèle en bouche, dans la saveur. En allant un peu en opposition à ce qu'on pourrait juger comme simple dans l'assiette, entre guillemets.
Le cœur de la chose, en fait, le cœur de la quête, c'est le goût. C'est le goût. La cuisine est belle en conséquence d'une recherche sur le goût. On ne travaille pas sur la beauté, on travaille sur le goût, sur la profondeur, les associations, l'originalité, l'équilibre, entre voilà, toutes ces saveurs qui sont à notre disposition, les températures, les textures. Voilà, c'est là qu'est le cœur du sujet. Et c'est là que César aussi travaille. Moi, j'ai reçu ça de mon père, je transmets ça à César et à Léo. C'est vraiment le goût, le goût, le goût, la profondeur, c'est ça. Et après, le beau vient en conséquence avec, en effet, soit quelque chose qui est conscient, inconscient, mais qui traverse l'esprit, parce qu'il y a une sorte d'ouverture comme ça, de l'auteur vers, moi, c'était en effet la passion de l'art qui m'ouvre l'esprit et qui me donne un œil, une conscience inconsciente en fait, mais c'est l'essentiel, c'est le travail. Et après, le soin de la main. Mais c'est ça, on parlait de la cuisine japonaise, mais la cuisine japonaise, alors on parle pas de la cuisine kaiseki, qui est une cuisine, en effet, qui pousse l'esthétique très loin, mais la cuisine, des différentes cuisines du Japon, c'est parce que la main est belle, on va dire, et respectueuse, et c'est simplement déposé sur l'assiette, comme ça, mais quelle assiette, magnifique, le bon choix. Et voilà, les choses viennent se placer, et c'est beau, elles parlent d'elles-mêmes, voilà, c'est beau parce qu'on sent que la personne a l'intention du soin, et du coup, voilà.
En 2017, vous et votre famille, Michel Troisgros, faites le choix de déménager votre restaurant en partant de Roanne, après presque 90 années passées en face de la gare. Vous vous installez à Auch, à une dizaine de kilomètres, en pleine campagne, avec en tête forcément la question de la transmission à vos enfants qui se profilent. Et nous verrons tout cela demain, Michel Troisgros, dans le cinquième et dernier épisode de cette Avoinu qui vous est consacré.
À demain.
C'était Avoinu avec Michel Troisgros, chargé de programme Daphné Abgral, réalisation Jean-Philippe Navarre, une série de Marceau Vassy, disponible sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.